Jean Lorrain. Jeannine. La terreur, c'est surtout de l'imprévu, avez-vous dit dans un de vos contes. Et si les masques contiennent autant d'épouvante, c'est qu'ils sont le visage même du mystère, et que l'imagination peut tout supposer derrière leur sourire de cire et de carton. Il y a cependant pis que le faux visage colorié des costumiers et des coiffeurs. Il y a le visage humain lui-même, le vôtre et le mien, celui de votre ami ou de votre maîtresse, figé d'hypocrisie, masqué de dissimulation. Visage dont l'expression travaillée et voulue peut tout à coup tomber, comme le loup de satin du domino, des nuits de carnaval. Et le rire amoureux découvre alors un rictus de haine. Le regard assassine sous les paupières, tout à l'heure encore lourdes de volupté, et le baiser montre les dents. Cette subtile déchirure du voile, cette brusque irruption de l'âme, enfin affranchie aux fenêtres du sourire et du regard, où elle insulte et ricane, cette sauvage et rageuse échappée de la haine et de la colère hors de toute contrainte, cela c'est vraiment la tombée du masque, et la détresse et l'effroi et le dégoût du misérable amant ou ami, témoin de cet ignoble déchaînement d'instinct, il faut les avoir vécus et souffert soi-même pour pouvoir les comprendre. C'est à la fois le visqueux d'un reptile et le gluant de la boue, et le froid de la boue, et la boue de neige, pénétrante et glacée dans tout l'être en angoisse, et dans les veines et dans le cœur. C'est de la colère aussi. La déception est si grande, c'est aussi une amertume, un navrement immense, un désespoir de tout, avec l'atroce sensation d'un coup de couteau au cœur. Or, cette détresse atroce de l'homme déçu, berné et sombré dans l'épouvante, cette terreur devant le surgissement de l'inconnu, je l'ai soufferte tout un soir, et cela dans une circonstance et dans un décor bien fait pour vous plaire, un vrai drame que j'ai vécu là durant quelques minutes, et qui sont demeurés les plus intenses où je me sois senti vivre. Drame banal, au personnage peu intéressant, mais dont quelques détails ont du relief. Et puis, cela fera une histoire de plus à ajouter à votre série de masques, car c'est une véritable histoire de masques que cette aventure d'hôtel garnie, où il y eut, au moment critique, une si terrible, une si inattendue substitution de personnes. Or, cette histoire, la voici. Or, cette histoire, la voici. Il y a bien 15 ans de cela, je n'étais pas encore le musicien dont les suites d'orchestre figurent au programme L'Amoureux et Colonne. L'auteur applaudit, et, je puis le dire sans vanité, appuyé et recommandé par tout un public auprès des directeurs des grandes scènes subventionnées. Mon premier ballet, Nitea, n'a été joué qu'en 1887 à l'Opéra. Je vivotais, et plutôt mal que bien, des leçons que je donnais le long de la journée, et le soir, d'une partie de violon que je remplissais dans un vague théâtre des quartiers excentriques. Je ne saurais préciser né, tant cela est si loin. Je vivotais, et je faisais vivre ma sœur, qui tenait mon ménage et habitait avec moi. Pauvre femme, elle est partie trop tôt, elle n'a pas vu mon succès. Elle était veuve et la maigre dot qu'elle avait sauvée, jointe à mes appointements de violoniste et aux bénéfices de mes leçons, nous constituait de pauvres rentes qui suffisaient à nos besoins. Mais que de digression. Bon, cet été-là, j'avais obtenu un engagement pour la saison d'Aix, une véritable aubaine que ces 3 mois de vacances dans la Savoie. Vacances, c'est peut-être un peu dire, puisque je violonnais 3 fois par jour, le matin au kiosque de la buvette, la journée au parc, pour recommencer le soir au casino. Mais là, du moins, pas de fastidieuses leçons à donner, de l'air pur, de hauts ombrages, et puis ce beau décor du lac et des montagnes. Ah, on était un peu mieux que dans notre petit logement, de la rue Kénégo. Mais tout cela, il avait fallu le quitter. Les saisons d'eau durent 3 mois au plus, et en octobre, j'avais dû réintégrer Paris, recouvrir le cachet sous les pluies continues d'automne, reprendre les interminables courses à travers la ville embrumée et triste, fiévreuse, affairée et si indifférente. Oh, les heures d'attente aux stations d'omnibus, dans les raréfiés des bureaux, ou dehors, dans le froid et la boue, les perpétuels arrêts des tramways où l'impatience d'être arrivé exaspère notre neurasthénie, et le soir, les mêmes flonflons raclés à heure fixe, les mêmes sempiternelles sottises ressassées sur la scène par les faces de pitre dans la boîte surchauffée du petit théâtre, et la bise glaciale et la boue et le noir retrouvés tous les minuits à la sortie. Ah, je puis me vanter de l'avoir connu, le fumier de l'existence. C'est dans cet écœurement et dans cet ennui que je la retrouvais, petite figure résignée de Montmartroise, émaciée et triste, petite fleur de faubourg tombée dans le ruisseau, mais pas encore flétrie, endolorie tout au plus, et comme affinée par le vice. Je l'avais connue il y a 5 mois, 15 jours avant mon départ pour Aix, un moment attiré par le ovale un peu souffrant de son visage de petite fille, un visage fin, comme modelé sous un pouce artiste, où les ailes du nez avaient d'étranges vibrations. J'avais aimé éperdument tout un soir ses prunelles d'un gris mauve, couleur de pervenche fanée, l'air de deux meurtrissures, plus pâle dans le nacre transparente de sa face meurtrie. Somme toute un charme de souffrance et de maladie, et que démentait au lit le tempérament le plus froid ou le plus éteint dans un corps surmené de fatigue. Je l'avais quitté sans regret, et son image s'était vite effacée de mon souvenir. Et c'était elle qui revenait vers moi. C'était bien elle, dont les grands yeux, devenus d'un bleu foncé, non encore déjà vus, me souriaient et m'interrogeaient. Elle était debout devant la table de l'estaminet où je dégustais un café médiocre, et toute souriante dans un pauvre waterproof usé, elle me regardait, m'implorait et me buvait des yeux, tout à la fois avec une visible joie répandue sur tout son pauvre visage, et comme je ne m'expliquais ni cette joie, ni cet élan de retour, Jeanine s'asseyait près de moi, et devenue presque jolie de confusion et de grâce attendrie, me confiait qu'elle ne faisait plus le métier. Oui, c'était ainsi, elle avait fini par avoir honte. Couchée avec Pierre et avec Jacques, ça lui levait le cœur. Elle avait trouvé de l'ouvrage dans une maison de couture. Elle gagnait jusqu'à 5 ou 6 francs par jour, avait une chambre à elle où je pourrais la venir voir, et de suite si je voulais. Et comme je m'effarais, étonné, oui, je pourrais l'aimer maintenant qu'elle était sage, et elle pourrait m'aimer, car si je l'avais trouvée si froide et si mal en train les autres fois, c'est justement parce qu'elle couvait une passion commençante, et qu'elle avait honte de me faire à moi qu'elle aimait les mêmes caresses qu'à un client. Et elle cachait son front dans ma poitrine. Et la fatuité des hommes est si grande que je m'éventais ni le mensonge, ni le viage, piège, et je montais chez Jeanine. Ce fut d'ailleurs une des meilleures heures de ma vie. Ce que ce petit corps frêle et nerveux pouvait contenir de volupté et communier de passion. Jeanine, devenue sage, flambait comme un feu de Noël. Et je la quittais sur un long baiser de gratitude en lui promettant de revenir. Et je revins, en effet, 2 fois, 3 fois même, la trouvant chaque fois plus amoureuse et plus emportée dans la fièvre de ses abandons. Chaque fois, je lui laissais un cadeau, n'osant, maintenant qu'elle était sage, lui offrir de l'argent. Et chaque fois, c'était une effusion passionnée, une étreinte toute de frémissements et de larmes. La dernière fois, pourtant, je la trouvais un peu triste. Pressée de questions, elle finissait par m'avouer qu'elle avait un gros ennui. Son frère, un mauvais sujet qui, par sa mauvaise conduite, avait hâté la mort de leur mère, venait de sortir de prison. Il était sur le pavé de Paris, sans place et sans désir d'en trouver, et la harcelait de demandes d'argent. En la quittant, cette fois-là, je lui glissai un louis dans la main, en lui conseillant de donner ses congés là où elle était et de changer de logement. Cet argent-là l'aiderait à payer son mois. Elle s'engagea à le faire en exigeant que je vasse encore une fois dormir avec elle dans ce petit appartement où elle avait été si heureuse. C'était là qu'elle avait été toute à moi, et pas une heure, ni deux, ni trois, comme tu fais toujours, insistait-elle, mais toute la nuit, pour qu'on soit bien à soi, tous les deux. Et comme j'objectais mon service au théâtre, finissant si tard, et l'ennui pour elle de m'attendre jusqu'à minuit passé pour me faire entrer dans la maison, « Mais non, mon chéri !» m'insinuait et câlinait sa voix. « Tout ce qu'il y a de plus commode, au contraire !» Tu sors de ta boîte à minuit, tu donneras le nom de mon frère au concierge. Hector, tu diras. Et moi, je t'attendrai au lit, bien chaudement. Je bassinerai le dodo. N'est-ce pas, mamie, que tu viendras? Et j'y allais. Je me faufilais soigneusement dans cette grande maison d'ouvrier, sans même avoir besoin de jeter le nom de passe au concierge. Jeannine m'attendait au lit dans sa pauvre petite chambre au papier déteint. La clé était dans la serrure. Je n'eus qu'à pousser la porte, une bougie brûlait sur la table de nuit. Jeannine ne m'entendait même pas entrer. Elle dormait. Comme elle était pâle. Jamais la fatigue de son pauvre visage n'était apparue si navrante et si pitoyable. Elle dormait et ses paupières mal fermées laissaient filtrer je ne sais quelle lueur sourde qui me serra le cœur. Ce n'était pas un regard et ce n'était pas des larmes, c'était pis que tout cela. De la douleur suintait entre ses cils mouillés. Je me dévêtais en silence et me glissais auprès d'elle, craignant de la réveiller. Qu'elle avait froid, mon Dieu! Son petit corps frêle ne m'avait jamais paru si glacé. Je la prenais dans mes bras, essayant de la réchauffer. Jeannine demeurait inerte, froide, n'essayant même pas de se dégager. On dit une chose morte à côté de moi. Cela finit par m'effrayer. « Jeannine, réponds-moi, tu es malade ? » faisais-je en la secouant toute. « Oui, un peu. » me répondait-elle enfin, dans un souffle. « Je cours depuis 6 heures du matin. » Et entre ses dents, « J'ai perdu ma place, à cause de mon frère, oui, oui. Mais laisse-moi dormir, je tombe de fatigue. Nous nous aimerons plus tard, dis, n'est-ce pas ?» Elle me faisait pitié, je soufflais la bougie et prenais mon parti de dormir. « Jeannine, où es-tu ? » C'était moi qui, dressé sur mon séant, le front moite, tâtais fiévreusement la place vide, l'oreille tendue vers la porte qui venait de se refermer. « Jeannine, est-ce toi? Tu es malade ?» Un pas se rapprochait du lit. Une allumette criait dans l'ombre. « C'est pas Jeannine, c'est moi !» répondait une voix d'homme. Et la lumière s'étant soudain faite, je me trouvais en face d'un grand gaillard en veste de zingueur et en cotte de toile bleue. « Oui, c'est moi, son frère à elle. Oh, la petite est loin. Pas la peine de crier, j'ai de quoi vous faire taire. » Et tirant un énorme couteau, un virole de sa poche, il l'ouvrait tout grand en me faisant miroiter la lame sous le nez. « Avez-vous beaucoup d'argent sur vous ?» J'étais nu, couché, sans armes, crié. J'avais les 10 centimes d'acier dans la gorge. Risquer un corps à corps dans cette chambre avec ce bandit, chose folle. Prenez, lui dis-je, dans le gilet, il y a bien 60 francs. Et quand il eut fouillé et vidé mes poches, « Vous n'êtes pas le frère de Jeannine !» m'écriai-je enfin, car la colère commençait à me monter. « Mais son souteneur, c'est une petite misérable, et c'est un guet-apens !»« Et puis après, » me répondait-il tout tranquillement, « Vous êtes bon, tant pis pour vous. J'en ai assez, moi, de battre le pavé sans ouvrage, assez de la purée de l'ordinaire du trou. Puis c'est pas tout ça, allez, aboulez-moi les bagues !»« Quelles bagues ?» Mais là, ce jonc que vous avez au doigt, mon saphir, c'était une bague précieuse qui me venait de famille, et avec elle un anneau égyptien orné d'un scarabée rapporté d'Égypte par un ami. Et comme je me cabrais, près cette fois à disputer chèrement mes bijoux, vous voulez pourtant que je me serve de ça ? Gouaillait l'homme, en sortant un morceau de savon de sa poche. Vous savez pourquoi c'est faire, ça? Ça donne du glissement. Ça aide à retirer les bagues des doigts, les refroidis. Si vous voulez pas que je vous savonne, allez à bouler le jour de vous-même. Et les yeux de l'homme chavirèrent tout à coup, si blancs dans sa face crispée et terreuse. Ses maxillaires eurent une si soudaine avancée de menace que je m'exécutais et les donnais, mes bagues. Et l'homme, pesamment, lentement, se retirait de son pas tranquille et fermait la porte à double tour. C'est le concierge qui me désemprisonna le lendemain matin. Avouez que c'est une belle histoire de masque!